Bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons de Tintin, juste avant de faire le portrait de Benoît Peters. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour.
Bonjour Maïlys et bonjour à tous. Surproduction, chute des cours, la crise du lait ne trouve pas d'issue en France après l'échec de 11 heures de négociations entre le numéro 1 mondial, Lactalis, et les éleveurs. Nous ferons le point dans un instant avec Marion Chantreau. Nous irons également à Bruxelles retrouver Pierre Benazé. La fin des quotas laitiers a plongé les éleveurs dans la crise. L'Europe se débat pour tenter de l'adoucir. Pas d'université de rentrée pour le Parti Socialiste, mais dès rentrée, un ordre dispersé. À 8 mois de la présidentielle, nous irons prendre la température au séminaire annuel des élus socialistes où se trouve Christine Moncla. Au chapitre économique, y aura-t-il des baisses d'impôts à la rentrée? La marge de manœuvre se réduit. Nous en parlerons avec Annabelle Grenier. À l'étranger, la Syrie, au menu d'une nouvelle réunion entre les chefs de la diplomatie américain et russe. Comment relancer le processus de paix dans un conflit qui a fait près de 300 000 morts? L'offensive turque en Syrie complique encore la donne. Nous tenterons de démêler les chevaux avec Nabila Hamel. L'échec des négociations donc en France entre les producteurs de lait et le groupe Lactalis. Le numéro 1 mondial dénonce l'attitude des syndicats agricoles qui, selon lui, ne voulaient pas négocier. Il annonce de manière unilatérale une augmentation de 15 € la tonne à partir du 1er septembre pour la porter à environ 272 €. C'est très insuffisant pour les producteurs qui se disent étranglés. Ils évaluent le coût de production à au moins 330 € la tonne de lait et entendent poursuivre le blocus du siège à Laval. Bonjour Marion Chantreau.
Bonjour.
Le bras de fer continue, hein, même si chacun se dit toujours ouvert à la discussion.
Le porte-parole de Lactalis dit avoir fait cette proposition pour montrer que son groupe souhaite aller de l'avant, contrairement aux syndicats agricoles, qu'il accuse d'agir de manière irresponsable en prolongeant leurs actions devant le siège du géant laitier en Mayenne. Augmenter de 15 € la tonne de lait à partir de septembre, c'est un effort supplémentaire pour les producteurs en difficulté, insiste Lactalis dans un communiqué. Cela équivaut à un prix d'achat de 272 € les 1000 litres, vous l'avez dit. Foutaise, insuffisant, répond Philippe Géant de la FDSEA de la Mayenne. Dominique Barrault, secrétaire général de la FNSEA, dénonce la méthode méprisante insupportable de Lactalis, qui fait cette annonce alors que les négociations sont pour le moment à l'arrêt.
Insupportable, c'est que l'entreprise Lactalis fasse une proposition en dehors des négociations, que Lactalis balance les chiffres de 15 € sans plus d'explication. Comment il veut appliquer ces 15 €? C'est 15 € sur les 4 mois qui restent, c'est 15 € qu'il rattraperait sur toute l'année. Non seulement c'est pas clair, mais c'est un jeu de communication. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait à nouveau réouverture des négociations.
Hier, après 11 heures de pourparlers, le médiateur des relations commerciales a fait une proposition à 280 € les 1000 litres, refusée par les éleveurs. Il réclame 10 € de plus, un prix moyen sur l'année de 290 €. Il est en ce mois d'août à 257 € seulement, inférieur au coût de production de leurs exploitations, inférieur aussi à ce que proposent les concurrents du numéro 1 mondial du lait. Le groupe Laïta ou la société Silav sont eux à 290 €. La laiterie Saint-Père, filiale d'Intermarché, rémunère les éleveurs 300 €. Les producteurs souhaitent donc reprendre les discussions pour obtenir un engagement écrit de Lactalis sur une nouvelle méthode de fixation de prix du lait, une visibilité jusqu'à la fin de l'année. Pendant ce temps, les manifestants en Mayenne poursuivent le blocus de l'usine du géant laitier. Des tours de garde sont prévus jusqu'à lundi.
Voilà, et donc cette crise va donc se poursuivre au moins tout le week-end. Il faut savoir que la France n'est pas le seul pays affecté par la chute des cours du lait. La crise est mondiale, baisse des importations chinoises, embargo sur la Russie qui ont durement affecté les producteurs, surproduction, concurrence des autres pays européens. L'Europe se débat depuis à peu près un an avec cette crise sans trouver d'issue. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour Marie-Pierre.
Vous êtes à Bruxelles, hein, où les experts de la Commission se sont encore réunis hier pour finaliser un nouveau paquet d'aide. Mais il faut dire que la fin des quotas laitiers n'a pas aidé.
Effectivement, les fameux quotas laitiers, c'était un peu l'instrument magique pour empêcher la surproduction. Ils ont disparu entièrement au début du printemps 2015 et les dirigeants européens se rendent compte maintenant que les outils leur manquent désormais pour agir à la fois de manière décisive et rapide, ce qui est très nécessaire dans un secteur de ce type. Les ministres de l'Agriculture européens ont multiplié les réunions autour de la crise laitière depuis un an, mais tous ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde au départ. Par exemple, les Irlandais, les Néerlandais, les Danois préfèrent en en théorie, laisser le secteur laitier s'autoréguler. Après l'explosion de la production dans ces pays lors de l'abandon des quotas, la crise a été très sévère chez eux, ce qui a tout de même amené les Européens à agir. Il y a eu des mesures communes contre la surproduction, même si elles ont été difficiles à mettre en place. Il y a eu d'abord, il y a un an, une première enveloppe d'un demi-milliard d'euros destinée à l'ensemble de l'agriculture européenne, puis des mesures pour limiter la production au printemps. Le problème principal de ces mesures-là, c'était leur côté incitatif, volontaire. L'idée était de parvenir à une entente, en fait, entre les éleveurs et l'industrie agroalimentaire. Ça n'a pas suffi. Les 28 ministres de l'Agriculture ont décidé d'une nouvelle enveloppe d'un demi-milliard d'euros début juillet, afin, on l'espère, d'offrir une compensation aux éleveurs de 11 à 14 euros par 1000 litres de lait non produit. Les ministres se réunissent à nouveau le 11 septembre. Ils espèrent bien voir les premiers signes d'un ralentissement de la production, d'une stabilisation des prix. Mais le problème de ces mesures reste qu'elles ne sont pas contraignantes, ce qui fait craindre à certains qu'elles n'auront pas assez d'effet pour faire enfin remonter le prix de vente au-dessus du prix de revient.
Merci beaucoup Pierre Benazé, en direct de Bruxelles. On le voit donc, l'entente est très difficile hein, entre producteurs et industriels, et ce, pas seulement en France. Pour trouver des marges de manœuvre, justement, pour soutenir les secteurs en difficulté, eh bien encore faudrait-il que la croissance soit au rendez-vous. Or, elle reste molle en France. Dans sa dernière livraison, l'INSEE confirme une croissance nulle au deuxième trimestre. Dans ces conditions, les nouvelles baisses d'impôts promises par le gouvernement pourraient être difficiles à trouver. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Marie-Pierre.
Du service économique de France Culture. Ce matin, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, rappelle que ces baisses d'impôts doivent être compatibles avec les engagements pris par la France. Autant dire que ce n'est pas gagné.
Très clairement, la croissance atone au printemps complique sacrément la tâche du gouvernement. La France, rappelons-le, s'est engagée auprès de la Commission européenne à baisser en 2017 son déficit sous la barre des 3% du PIB. Elle prévoit même de le faire descendre à 2,7%. Baisser les déficits, maîtriser la dépense publique et baisser les impôts sans réel croissance, bref, il y a de quoi s'arracher les cheveux à Bercy. L'enveloppe de toute façon sera réduite. Manuel Valls a déjà prévenu que ce geste fiscal ne pourrait pas excéder les 2 milliards. Alors comment s'y prendre? Plusieurs pistes ont été évoquées à ce jour et restent sur la table. Et les désaccords entre Bercy et Matignon sont grands. Manuel Valls défend la baisse de l'impôt sur le revenu. L'année dernière, les ménages modestes ont été favorisés par une modification du barème qui les a fait sortir de l'impôt sur le revenu. Mais difficile de réitérer cette année. Trop cher, dit Bercy. Dans l'attente des précisions du gouvernement, le syndicat solidaire Finances publiques, principal syndicat des impôts, s'est dit réservé sur ce choix. Pour le syndicat, il s'agit de l'impôt le plus progressif et donc le plus juste. Mais à force de coups de rabot, il n'y a guère plus qu'un peu moins de la moitié des ménages qui y sont assujettis. Michel Sapin estime, lui, que les perspectives de croissance sont de toute façon insuffisantes pour un geste fiscal significatif. Alors, le ministre du Budget défend une série de mesures ciblées en faveur des catégories modestes, comme l'augmentation du montant de la prime d'activité, ce complément de revenus accordé depuis janvier aux travailleurs pauvres ou proches du SMIC, ou encore une baisse de la CSG acquittée par les retraités modestes. Qui des deux obtiendra donc gain de cause? En année de campagne présidentielle, c'est un choix qui en dira long. À François Hollande de trancher, le président devrait prendre sa décision d'ici la fin de semaine prochaine.
Merci Annabelle. La polémique sur les arrêtés dits anti-Burkini pourrait trouver un début d'épilogue cet après-midi, du moins sur son versant juridique. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, doit en effet dire à 15h s'il valide ou non l'arrêté pris par la commune de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Hier, François Hollande a tenté la synthèse en appelant au ni-ni, ni provocation, ni stigmatisation. Mais le débat continue à enflammer la droite et à diviser la gauche jusqu'au gouvernement. Le Burkini, c'est une question de plus qui fracture le PS, alors que les socialistes se réunissent en séminaire ce week-end sous la houlette d'un Jean-Christophe Cambadélis à l'offensive dans les médias. Bonjour Christine Monclar.
Bonjour Marie-Pierre.
Vous êtes à la Mutualité où se tient le séminaire annuel des élus socialistes. Alors, comment se présente cette rentrée? Les sujets qui fâchent ne manquent pas, on parlait du Burkini, mais la direction du PS est clairement à l'offensive contre son ennemi préféré, Nicolas Sarkozy.
Oui, avec ce retour musclé et très droitier de Nicolas Sarkozy, les socialistes ont enfin, semble-t-il, l'occasion de regauchiser leur image et de faire diversion, de parler d'autre chose que de leur propre division. Et face à ce que Jean-Christophe Cambadélis nomme ce matin sur un ton dramatique une offensive jamais vue depuis la libération contre nos valeurs, une seule voix selon lui, François Hollande, c'est en tout cas ce que le patron du PS déclare au journal Le Monde, daté de demain. Hollande reste la carte maîtresse de la gauche. Il sort là de sa neutralité d'organisateur des primaires socialistes au motif, explique-t-il, que le bilan de Hollande est peut-être contrasté, mais incomparablement meilleur que celui laissé en 2012 par la droite. Mais cependant, ce matin, face aux élus socialistes, il ne s'est pas aventuré à parler aussi clairement de son choix. Jean-Christophe Cambadélis.
Il faut que les uns et les autres, tout en gardant leur position, leurs critiques, leurs interrogations, redescendre sur terre, sur le réel du clivage politique qui est en train de se nouer. Et il n'est pas difficile de mener une critique tout en menant un combat. Ce qui est compliqué, c'est quand on mène une critique en refusant de mener le combat, parce que on renforce nos adversaires.
Le clivage gauche-droite, c'est donc bien le marqueur de cette rentrée socialiste qui se fait en ordre très dispersé. Le PS est le seul parti à ne pas tenir d'université d'été. Elle était prévue à Nantes. Elle était annulée par le parti par peur des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Lundi, c'est dans le sud-ouest que Manuel Valls et la majorité gouvernementale feront à leur tour leur rentrée juste après et juste à côté de celle de Jean-Luc Mélenchon.
Merci Christine Moncla. On suivra donc tout cela avec vous. Vous étiez avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Un nouvel attentat en Turquie contre le quartier général des forces anti-émeutes. Une voiture piégée a explosé dans la ville de Cizre, à deux pas de la frontière syrienne. Attentat attribué par les autorités turques aux rebelles kurdes du PKK. Il a fait 8 morts, 8 policiers et quelques 70 blessés. Cette nouvelle attaque intervient alors que la Turquie poursuit son offensive terrestre en Syrie pour faire reculer les Kurdes de Syrie. Ce matin encore, de nouveaux chars ont passé la frontière. Et sur le front diplomatique, les grandes manœuvres se poursuivent également sur ce dossier avec dès aujourd'hui Nabila Hamel, la rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Il s'agit de tenter de relancer les pourparlers de paix.
Oui, c'est une crise gigogne avec tous les intérêts régionaux qui ressurgissent au fur et à mesure que le groupe État islamique est affaibli sur le terrain. Depuis la bataille de Manbij, remportée après plusieurs semaines de combats par des rebelles kurdes syriens, il n'était pas question pour la Turquie de les laisser reconquérir d'autres régions. Ankara y voit la menace d'une continuité territoriale kurde à sa frontière avec la Syrie. D'où une première, cette incursion dont vous parliez, de chars turcs depuis le début de la semaine à l'intérieur de la Syrie. Cette nouvelle donne est tolérée par les grandes puissances. Elles estiment qu'Ankara a le droit de se défendre contre l'EI et de repousser les Kurdes à l'est de l'Euphrate. En fait, seule la Russie, plus ou moins réconciliée avec la Turquie, avait dénoncé l'intervention turque, mais sans aller plus loin dans la critique. Autre nouvelle donne, l'utilisation de gaz de chlore par le régime syrien alors qu'il en avait proscrit l'usage en 2013. Cette fois, c'est un rapport de l'ONU qui en donne la preuve. Le Conseil de sécurité va s'emparer de cette question mardi prochain. Paris, Washington et Londres insistent pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris les soutiens de Damas, entendez Moscou. Conscient qu'un veto pourrait être opposé à toute sanction éventuelle, John Kerry mise plutôt sur une pression qui amènerait les Russes à agir auprès de Damas pour une relance des pourparlers inter-syriens. C'est sa rencontre de ce matin à Genève avec Sergueï Lavrov. Il était également question de travailler à une trêve hebdomadaire de 48 heures à Alep pour faire parvenir de l'aide aux populations assiégées.
Merci Nabila Hamel. En Bolivie, les affrontements sont récurrents dans les exploitations minières, mais cette fois-ci à Panduro, à 200 km au sud de la capitale, La Paz. Ils ont fait comme victime un vice-ministre dépêché par le gouvernement pour négocier avec les mineurs qui bloquent les routes depuis plusieurs jours. Le président Morales se dit profondément ému. Le gouvernement affirme que le ministre a été torturé et battu à mort. Alors, Thomas Schoenerer, comment a-t-on pu en arriver là?
Alors, les conflits autour des mines boliviennes ont toujours été très violents. Mercredi, deux mineurs ont été tués par la police. Mi-août, ce sont des policiers qui avaient été pris en otage. Les manifestants n'ont accepté de les relâcher qu'en échange de la libération de plusieurs des leurs. Deux chercheurs français, Laurent Lacroix et Claude Legouille, sont en train de finir un livre sur la Bolivie. Ils y décrivent la situation explosive qui règne autour, mais également à l'intérieur des mines. Les gisements dans le pays sont partagés entre les coopératives, les sociétés privées, les syndicats liés à l'État, ainsi que les autochtones. Chacun se bat pour ses intérêts. Les ouvriers des coopératives qui mènent actuellement la mobilisation demandent plus de concessions minières, de meilleurs salaires. Elles veulent aussi retrouver un avantage, celui de s'associer avec des entreprises privées, étrangères ou boliviennes. Une possibilité de s'associer sans pour autant perdre leurs avantages, notamment fiscaux. Le gouvernement refuse, les négociations sont au point mort et la Fédération nationale nationale des coopératives minières a lancé une campagne illimitée de manifestations dans le pays. Derrière ce conflit, il y a aussi la lutte ouverte entre deux anciens alliés, les coopératives minières et Evo Morales. Les coopératives ont soutenu un temps le président bolivien, mais lui s'est peu à peu tourné vers les électeurs urbains. Les mouvements ouvriers se sentent aujourd'hui floués par ce qu'ils appellent une dérive néolibérale d'Evo Morales.
Merci à vous Thomas Schoner. En Italie, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants, mais les espoirs s'amenuisent. 48 heures après le séisme qui a frappé le centre du pays, le bilan ne cesse de s'alourdir avec 267 morts et près de 400 blessés. Le temps cet après-midi, bien pas de surprise, chaud, très chaud sur l'ensemble du pays, jusqu'à 37 degrés cet après-midi et même 38 dans le centre du pays, un petit peu moins sur les côtes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Elle a été préparée avec Yacine Bouzard. Je vous retrouve pour ma part à 18h pour le prochain journal.